archives de l'écologie. François Bernard.
Merci de nous accueillir à l'écoute des archives de l'écologie. Le réchauffement climatique voudrait qu'on renonce à utiliser les énergies carbonées, le pétrole, le gaz. Ils sont émetteurs des gaz à effet de serre qui favorisent ce réchauffement, sans pouvoir parvenir à une réelle diminution de ces gaz à effet de serre. Alors, on reparle de plus en plus des alternatives au pétrole. On a vu la semaine dernière que le nucléaire tient la corde, malgré les accidents terribles à Tchernobyl ou Fukushima. L'éolien s'est également développé au fil des décennies, même si ses débuts ont été laborieux et parfois contestés. C'est le thème de notre archive aujourd'hui, produite par RFI en avril 2001. L'équipe de Fréquence Terre réalise alors une émission qui a pour titre « Le boom de l'énergie éolienne ». Alors, on écoute d'abord quels étaient les projets, les espoirs mis dans cette nouvelle technologie et nous verrons dans 20 minutes quels en sont les résultats aujourd'hui en France. A tout à l'heure.
Fréquence Terre.
Bonjour à tous, Ben Kramer avec vous pour ce Fréquence Terre consacré à l'énergie éolienne.
La France au niveau éolien est en retard.
On parle beaucoup de réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à l'éolien. Certains disent oui, mais bon, l'éolien par exemple se substitue au nucléaire.
L'énergie du vent, encore dénommée éolienne, en référence au dieu Éole, a l'avantage, voire le privilège, d'être une énergie douce, une énergie propre, sans déchets et, disons, sans bavure. C'est aussi une technique qui est maintenant au point. Et cela tombe bien, puisque selon les prévisions, l'énergie tirée du vent va représenter 10% de la consommation électrique dans le monde d'ici moins de 20 ans. Les Françaises et les Françaises ont la chance d'être dans le vent, puisque nous disposons du deuxième gisement éolien d'Europe, juste après la Grande-Bretagne. Il nous suffit d'installer des mégawatts. Mais pourquoi ne l'a-t-on pas fait plus tôt? Réponse de Bernard Champanet, l'un des responsables de l'entreprise Vernier.
Il est certain que la France, qui a en particulier un parc nucléaire important et une conception relativement centralisée de la distribution électrique, n'avait pas de besoin en matière d'autres formes de production d'énergie électrique. À l'inverse, par exemple, du Danemark, puis de l'Allemagne, dans lequel il n'y avait pas ce mode de développement et dans lequel donc des fabricants se sont développés en utilisant le réseau des agriculteurs qui se sont mis à être des investisseurs. Et l'acceptabilité de l'éolien dans les pays nordiques vient du fait que les agriculteurs essentiellement, qui sont propriétaires du terrain, il n'y a pas de mystère, se sont accaparés et ont profité de ce développement. Ce qui a permis à une industrie locale de se développer. Aujourd'hui, c'est vrai que les Danois, les Allemands et dans une moindre mesure les Espagnols sont les premiers mondiaux dans ce domaine parce que à la fois leurs gouvernements respectifs les ont encouragés par une politique tarifaire de rachat d'électricité qui était plus intéressant, des incitations fiscales sur les investissements et il y aura très probablement des grandes fermes éoliennes à terre, des grandes fermes en mer que l'on appelle les fermes offshore et une troisième voie qui sont des projets individuels qui peuvent servir de revenus d'appoint et qui auront un impact très important sur l'aménagement du territoire parce que c'est une façon de retenir les gens au pays en leur procurant des ressources là où ils habitent.
À l'Agence régionale de l'environnement et des énergies renouvelables, on réfléchit sur cette conversion à l'éolien. Philippe Salvi.
L'éolien quand même apporte un point positif par rapport à l'aménagement du territoire, donc à la création d'emplois locaux, par rapport à l'exploitation des gisements délocalisés. Donc c'est peut-être un premier pas vers justement une réduction à l'avenir, par exemple, du parc nucléaire. Mais je crois que tout ça est à discuter et il faudrait qu'on puisse, d'un point de vue national, de mon avis, avec les agences régionales, entamer une réflexion portant sur des éco-bilans, donc à tous les points de vue. L'État a voté une loi qui s'appelle la loi d'aménagement, d'orientation et d'aménagement du territoire, qui a pour objectif d'élaborer un certain nombre de schémas de services collectifs, notamment donc le schéma de services collectifs de l'énergie, qui sera décliné dans chacune des régions françaises, que ce schéma prévoit qu'avant de soutenir ou de développer telle ou telle filière, on fasse des éco-bilans. Donc je pense que pour ce qui nous concerne, nous, on souhaiterait qu'au niveau national, peut-être sous l'égide du RAR, du réseau des agences régionales de l'environnement, nous lancions des études comparatives donc des éco-bilans qui puissent permettre de comparer toutes les filières, quelles qu'elles soient, qu'elles soient énergie classique, qu'elles soient énergie nucléaire ou énergie renouvelable, de façon à prendre en compte tous les aspects environnementaux, mais aussi les aspects sociaux et les aspects évidemment économiques.
À Lyon, début mars, s'est tenu le Salon des énergies renouvelables, une première en France. Ce ne fut pas seulement le rendez-vous des industriels. Les privés, eux aussi, sont venus se renseigner. Une animation certaine sur le stand de l'ADEME, l'Agence nationale de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Ces directives, tout ce mode d'emploi-là, on peut le trouver actuellement? Je pense que vous avez un guide.
Un guide qui s'appelle le guide du porteur de projet éolien. Oui, vous pouvez déjà consulter. On n'en a plus, mais je peux vous l'envoyer. Ça vous donnera déjà quelques éléments.
J'ai trouvé un site qui me paraît idéal. Et je suis prêt à investir de manière privée dans cette voie-là. Il faut qu'il travaille de manière encadrée avec les partenaires, avec l'État.
Je pense que c'est comme ça que ça va, je pense, on s'achemine vers ce cadrage-là. C'est-à-dire qu'on ne laissera pas faire tout et n'importe quoi à des privés à droite ou à gauche parce qu'ils ont le sentiment que ce site est bon ou parce qu'ils ont envie d'investir à tel endroit.
Mais tous les privés ne sont pas convaincus des bienfaits de l'éolien. Parmi les contestataires, un membre du Parti des Verts, responsable de l'association Bon Vent et président de l'association de défense du paysage du Larzac, Jean-Paul Delette.
Il y a simplement dans notre petite région, on fait à cheval sur deux régions administratives, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, il y a trois projets. Un situé sur la partie aveyronnaise, près d'un bel endroit, tout près d'une zone Natura 2000, donc il comporterait une quinzaine de machines de 103 mètres 50 de haut, étalé sur une ligne de 2,5 km. Voilà. Sur le Larzac et Roltay, il s'agit là de deux implantations différentes à proximité de la Couvertoirate, qui est un lieu classé historique, un magnifique village entouré de ses remparts. Et donc là, c'est plus aléatoire, c'est un petit peu variable, mais disons 25. Et donc, il y en a une autre près du cirque de Navacelles également. Donc il y a une assez forte opposition de gens qui sont ici, et y compris de gens, je dirais, de sensibilité écologiste. Que moi, je suis un vieux militant écologiste et que je me suis battu contre le nucléaire. Donc je suis pour les énergies renouvelables, dont l'éolien. Seulement, bon, il ne faut pas avoir des dogmes, vivre des dogmes et appliquer, je dirais, que la nature ou le terrain s'adapte au principe. Ce serait plutôt l'inverse. Alors, on a également les chasseurs. Alors, moi, écolo, en général, les chasseurs, vous savez, on ne fait pas forcément bon ménage. Là, j'ai le soutien des chasseurs sur cette histoire. Et alors, dernière chose, mais on pourrait multiplier à l'extrême, il y a un projet qui est en cours, qui est à plus qu'à l'étude, sur lequel on travaille, de classement pour l'UNESCO. Donc, patrimoine mondial de l'UNESCO, de l'entité Grand Causse et Cévennes. Or, l'UNESCO dit qu'il y a des centrales éoliennes sur le Larzac. Ben, on ne pourra pas classer. On ne pourra pas classer parce qu'il y a une empreinte industrielle très forte sur le paysage qui vont à l'encontre des règles de classement. Et on prenait l'exemple effectivement de la vallée de la Loire avec tous ces châteaux Renaissance qu'on a pendant un bon moment refusé de classer. Bon, là, il ne s'agissait pas d'éoliennes, effectivement, il s'agissait de centrales nucléaires. Mais ce n'est pas parce que les centrales étaient nucléaires qu'on refusait de classer. C'est simplement à cause de l'empreinte industrielle sur le paysage.
L'ADEME, qui œuvre beaucoup en faveur du renouvelable, n'est pas insensible au vent de la contestation. Jacqueline Laurent.
Nous, ADEME, on a travaillé pendant très longtemps avec des associations de défense de l'environnement, de protection de l'environnement. Et il s'avère que c'est nos plus fervents adversaires maintenant pour le développement des éoliennes. Parce qu'il y a des freins sociologiques très importants pour l'implantation des parcs. On voit sur certains projets, notamment un projet qu'on a en Ardèche, où les associations sont nos adversaires. C'est-à-dire disent non, ça défigure le paysage, non, vous êtes sur des tourbières, on n'en veut pas à cet endroit-là, etc. Enfin, il y a eu déjà tellement de choses qui ont été faites de manière très défavorable au paysage, que ce soit en termes de construction sur la Côte d'Azur ou autre, que maintenant, je pense que les gens sont un peu griffes sortis dès qu'on leur dit... On va installer des choses. Puis il y a le symptôme centrale nucléaire, grosse centrale thermique. Il y a un passif. Exactement, exactement. En France, on y va vraiment mollo. Et c'est un paradoxe, c'est que le cadre législatif et politique, il est cadré maintenant. Je veux dire, que ce soit au niveau européen ou au niveau français, tout est sur les rails. On s'est battu pendant des années pour en arriver à ce résultat. On pensait qu'il fallait passer par le haut pour que ça redescende. Et on se rend compte que maintenant, la base a des difficultés d'acceptation, quoi. Il faut qu'on informe la population. Moi, mon sentiment, c'est qu'on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas et que les éoliennes en France, elles sont méconnues. Donc je pense qu'il y a aussi un rejet quasi systématique. C'est aussi assez français, mais je pense que c'est valable à peu près partout, de ce qu'on ne connaît pas. Donc il va y avoir un très gros travail d'information, de formation et de sensibilisation préalable. Parce que ce qu'il ne faut pas, c'est de contre-exemple. S'il y a un parc qui ouvre avec des manifestations anti-parc éolien, etc., ça sera...
En Allemagne, il y a 20 ans, on aura tout faux.
On aura vraiment tout faux.
Pour se former aux énergies renouvelables, il n'existe actuellement en France qu'une dizaine de formations, dont l'Institut ENSAM en Corse. Mais on risque d'avoir tout faux, comme dit l'ADEME, à force de n'envisager l'éolien que sous sa forme industrielle. Jean-Paul Delette, de l'association Bon Vent.
Il y a aussi un problème d'aménagement de territoire. On installe des éoliennes qui produisent sur des lieux comme ici, alors que nous n'avons pas de lieu, je dirais, pour utiliser l'électricité produite. Nous sommes obligés de transporter très très loin l'électricité. Par exemple, je prends l'exemple de l'Aveyron, qui est un département excédentaire en production d'énergie. Bon, c'est bien, tous les départements ne peuvent pas l'être. Nous, les barrages, donc puisqu'il y a 21 barrages, fournissent l'électricité de manière presque excessive, si je puis dire, puisqu'on est obligé de fermer certains barrages. Certains barrages ne fonctionnent pas. Donc l'électricité que nous produisons, elle est utilisée soit à Toulouse, soit même jusqu'en Espagne. Or, en fait, on sait très bien que d'une part, ça va nécessiter des constructions de lignes électriques, et d'autre part, il y a une déperdition assez extraordinaire en kilowatts pendant qu'on le transporte, ce qui est normal. Donc, chaque fois que l'on peut, il faudrait construire ces centrales près de lieux d'utilisation, soit de grandes villes, soit de lieux industriels qui ont besoin de cette électricité, qu'on la transporte le moins possible.
Jean-Marie Maillère est un petit fabricant, patron de Meilleures Électricités. A-t-il quelque chance de trouver sa place sur le créneau de l'éolien ? C'est du moins son intention, et c'est pourquoi il s'adresse, à l'occasion du salon, à une ADEME pas toujours très réceptive.
On vient de l'Est de la France, du Grand Est, et bon, on a fait l'effort de venir ici quand même, hein, et on voulait rencontrer des fabricants de produits, mais on s'aperçoit que c'est des grosses unités, et nous, on est des petits installateurs électriciens, on souhaite avoir des renseignements sur des petites unités de production.
Oui, alors autant sur le solaire, on est sur des usages de particuliers, en fait, sur de l'habitat chez des particuliers. Sur l'hydraulique, je pense qu'on va repartir sur le créneau du petit hydraulique. Sur l'éolien, on souhaite vraiment le développer, puis il faut qu'on remplisse des objectifs qui sont très ambitieux. Donc ce sera plutôt des projets de grande taille. Développer l'éolien en site isolé, oui. Chez des particuliers en site isolé, oui. Chez des particuliers raccordés au réseau, c'est plus difficile. On les poussera plutôt à faire des bâtiments performants, de moins consommer d'électricité, enfin réduire la demande, de développer des systèmes, pourquoi pas photovoltaïques, du solaire, qui sont plus faciles ensuite en exploitation. L'éolien, à cette échelle, c'est peut-être moins facile.
Les petits installateurs, on va voir les miettes.
Sur les petits projets, c'est ce que je vous ai dit, aujourd'hui, on n'est pas trop parti sur ce créneau d'intervention, en fait. Il n'y a pas de procédure aujourd'hui de système d'aide. C'est en construction, tout ça. On est dans une période transitoire aussi.
On est venu un peu trop tôt, hein. Ça ne fait rien.
La société Vergnet, auquel nous avons déjà fait référence, a le vent en poupe. Via sa filiale dans le Languedoc, elle fabrique aussi des pales. Elle peut se vanter de présenter toute la gamme de puissance des petites machines, de 2 kW jusqu'à 200 kW. Son directeur commercial, Bernard Champanet.
La société Vergnet est plutôt spécialisée jusqu'à présent, puisqu'on exporte 90% de notre production, de notre usine d'Orléans, vers des départements d'outre-mer ou vers des territoires de zones plus réputées difficiles sur le plan d'accessibilité. Nous sommes présents en Caraïbes beaucoup, puisque nous avons une unité de production qui est en Guadeloupe et que nous sommes sur des projets en Guadeloupe. On a une logique de s'installer près des habitants. C'est vrai, effectivement dans toute la Caraïbe, c'est vrai, et c'est vrai dans les zones africaines. J'oubliais le Cap Vert par exemple, où on s'est installé dans un certain nombre de villages. Le Maroc actuellement, où on est en train avec le GDER, qui est l'équivalent de l'ADEME au Maroc, nous sommes en train de travailler sur un projet qui est de fournir de l'électricité à des villages qui pour l'instant n'en ont pas, par de l'énergie décentralisée. Car le vent est justement là où se trouvent les habitants. Et c'est un des atouts de cette énergie, dans le fond. Donc on a toujours axé notre développement pour une acceptabilité locale, de façon à ce que les gens s'approprient le projet.
Acceptabilité locale, j'ai voulu en savoir davantage auprès de Vernier Caraïbes. Vernier Caraïbes, cela représente 40 personnes, avec une usine à Basse-Terre, en Guadeloupe, à 7000 km de l'Hexagone. Bruno Lecaille, responsable des travaux.
Chez les écologistes, on a toujours des petits problèmes. C'est vrai qu'aucun système n'est parfait. On a une petite nuisance sonore et un impact visuel qui est indéniable. Donc malgré tout, on subit quand même, enfin on ne subit pas vraiment leur pression, mais bon, on a quelques réflexions quand même parfois négatives. On avait eu un petit problème à la première centrale, donc notre première implantation ici sur l'île de la Désirade, essentiellement des pêcheurs, qui craignaient que les éoliennes ramènent des requins dans les parages et dans les eaux. Donc on avait eu beaucoup de mal à combattre cette idée-là et à faire accepter nos machines. Mais on a quand même la chance d'être soutenu ici par le conseil régional et par l'ADEME, qui ont des ambitions très fortes sur les énergies renouvelables pour la Guadeloupe, avec des ambitions de 25% de l'énergie produite par les énergies renouvelables.
Vous seriez à l'avant-garde, là.
Oui, on l'est déjà, si je peux me permettre, avec les autres systèmes qui sont liés, la géothermie, le solaire. Donc d'autres systèmes qui prennent les ressources que nous avons ici et qui les exploitent au mieux. On est déjà un des départements leaders dans ce domaine-là. En effet, on est installé maintenant depuis bientôt 10 ans en Guadeloupe. Là, la société Vernier, au départ, avait racheté une petite entreprise d'éolien qui faisait surtout des petites machines pour les particuliers, les gens qui avaient une ferme isolée, etc. Et on a créé la première ferme éolienne donc à la vocation de production d'électricité pour EDF. Il y a de ça maintenant 9 ans, en 92, sur l'île de la Désirade, une petite île de 2000 habitants qui fait partie de l'archipel guadeloupéen. Donc c'est vrai qu'on est parmi les pionniers de l'éolien en France.
Le PDG, Marc Vernier, a coutume de dire qu'il construit sur mesure, alors que ses concurrents font des produits en série. Chez Vernier, en tout cas, on sait présenter les atouts du produit. Bernard Champanet.
Nos machines ont la caractéristique de pouvoir être abaissées avec un simple treuil, donc elles sont installables dans des zones relativement inaccessibles. On peut les charger sur un 4x4 et aller les mettre dans un coin où il n'y a pas de route. Et deuxièmement, pour les relever, on n'a pas besoin de grues dans des zones où il n'y a pas de grues en général, en particulier les îles, toutes les îles. Et donc elles se relèvent toutes seules avec un treuil. Il faut une demi-heure pour la lever, une demi-heure pour la baisser, ce qui est très intéressant en cas de cyclone, de façon à ce qu'elles soient protégées. On laisse passer le cyclone et on les relève après. Et donc une fois par an, on les baisse. On fait le graissage, c'est comme une voiture. On fait le graissage, on regarde si les éléments d'usure des pièces électriques, on les change et on la relève et c'est reparti pour un an.
Et la durée de vie totale, c'est à peu près 20-30 ans?
On a des machines qui marchent dans des sites très difficiles, pourtant, depuis plus de 15 ans. Dans la mesure où l'entretien et la maintenance sont bien faits, il n'y a pas de problème. Par contre, on est certain, pour l'avoir vécu hélas, que quand la maintenance n'est pas faite, la machine, au bout de 2 ans, elle manque de graissage. Comme c'est quelque chose qui tourne, ça chauffe et ça casse.
Et alors, il n'y a pas de problème de démantèlement, contrairement aux centrales nucléaires. J'imagine que ça doit être très très simple le jour où on décide, par exemple, de s'en débarrasser.
Ah ben, en ce qui concerne nos machines, avec des haubans, haubanés, il y a 4 piquets et une dalle de béton qui fait 1 mètre carré. Qui sont effectivement très faciles à démonter. À la limite, si on veut faire du penser en termes de recyclage, c'est jamais qu'un mât en ferraille et de la ferraille, un peu de cuivre. Donc tout est récupérable là-dessus et ça ne laisse pas de traces une fois que c'est démonté, c'est vrai.
Venons-en maintenant aux grandes éoliennes. La filiale de Framatome, Jeumont Industries, se positionne sur le nouveau marché, non seulement en France, mais aussi en Espagne, demain en Chine et au Canada. J'ai demandé à Maryse Gemrich, chargée de la communication, pourquoi Jeumont s'est lancé dans l'éolien.
Les énergies renouvelables, c'est un créneau porteur actuellement. Et donc, il y a aussi au niveau français une volonté politique d'avoir un constructeur français d'éoliennes de grande puissance, hein, puisqu'il y a aussi la société Vernier qui, elle, fabrique des éoliennes de moyenne puissance. Mais Jeumont, donc, a eu cette volonté au niveau politique et pour répondre à des besoins français d'être présent sur le marché éolien. Mais écoutez, pour le moment, nous, on est surtout concentrés en France sur des projets qu'on a obtenus via le programme EOL 2005. Donc on a un carnet de commandes à peu près 80 ou enfin plus de 100 MW à installer. Et ensuite, effectivement, c'est l'export. Nous, on arrive depuis 3 ans sur ce marché.
Et Jeumont Industrie va pouvoir rattraper le retard ?
Eh bien, je veux dire, ça, c'est notre objectif, quoi. Hein, et de rattraper ou au moins d'arriver derrière les grands concurrents étrangers.
Parmi les étrangers, Nordex. De nationalité danoise, Nordex a mis sur pied des éoliennes, dont un parc au Cap Corse, avec le soutien d'EDF, Électricité de France. Nordex développe des machines de 2,5 MW, comme à Aix-la-Chapelle, et mise de plus en plus sur le offshore. Jeumont Industrie n'a pas l'intention de se laisser distancer, comme le confirme l'un de leurs responsables commerciaux, Daniel Repussard.
Pour les applications offshore, c'est-à-dire en mer, le long du littoral, on a affaire à des vents beaucoup plus constants, plus puissants. Donc là, on peut monter à des puissances, à des machines beaucoup plus grosses, donc à des puissances unitaires beaucoup plus grosses. Et nous avons des plans dans un avenir proche pour 1,5 MW en puissance unitaire, c'est-à-dire 2 fois la taille de la machine actuelle, qui représente une machine dont le diamètre fera aux alentours de 70 mètres, diamètre des pales, et dans un avenir plus lointain pour des puissances unitaires de 3 MW, selon l'écho que réservera le marché à des puissances de cette taille. Je pense que Jeumont Industrie a dans ses activités une forte part nucléaire. Jeumont Industrie a aussi une partie de ses activités dans l'industrie, principalement axée sur la production d'énergie. Énergie traditionnelle aujourd'hui avec les turbines à gaz et les turbines à vapeur, dont la gamme 50 MW, donc c'est très faible en comparaison d'une centrale nucléaire. Et en voie de diversification de la partie industrielle, on développe l'éolien. Mais ce n'est pas directement lié à l'activité de Framatome, si vous voulez, en tant que nucléaire, énergie renouvelable, il n'y a pas de liaison. C'est, je pense, une simple stratégie de l'entreprise dans ses activités industrielles, le développement de ses activités industrielles.
Framatome, via Jeumont, va donc faire de plus en plus d'éoliennes. EDF devient gazier. Les géants du pétrole, comme BP et Total, sont les rois du solaire. Ils vont aussi se lancer dans l'éolien avec le offshore qu'ils connaissent bien. Et voilà, l'énergie du vent, pas trop décentralisée, va tout simplement devenir un business comme les autres et devient le monopole de quelques-uns. C'était Fréquence Terre, le magazine de l'environnement. Une émission de Ben Kramer avec à la réalisation Fadi Matar et au mixage Joël Pochon. Vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse suivante fréquence.terre@rfi.fr. À la semaine prochaine.
Voilà, reportage réalisé en avril 2001. Les espoirs sont grands à l'époque, on l'entend, mais il faut attendre quelques années avant de les voir se concrétiser. À partir de 2005, on constate des politiques de soutien aux objectifs européens dans cette filière de l'éolien. En 10 ans, la production est multipliée par 10, les parcs terrestres s'installent sur le territoire. En 2020, on peut dire que l'éolien devient une composante importante des renouvelables, mais il reste loin derrière dans la production totale. En 2025, il procure 10% de l'électricité produite en France. C'était ce qui était prévu il y a 20 ans. Le tournant, aujourd'hui, s'opère dans l'éolien en mer. Mais les difficultés sont persistantes. Il faut faire accepter les implantations par les populations locales et faire avec une production variable, on le sait, selon le vent. Mais si la crise pétrolière se poursuit, on peut penser que l'éolien prendra de l'importance parmi les sources d'énergie d'avenir. Fin de cette émission en direct sur 98.1 ou en podcast sur le site alternantefm.fr. Merci de votre fidélité. On va finir en chanson, bien sûr, avec le vent pour thème, difficile d'éviter, le célèbre « Blowing in the wind », la réponse est dans le vent, nous dit Bob Dylan. À la semaine prochaine.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.